France Culture.
Et voici le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. On continue à parler de l'État de Palestine que la France va reconnaître aujourd'hui. Une reconnaissance et ensuite rencontre avec la ministre des Affaires étrangères de l'autorité palestinienne, puis reportage en Cisjordanie occupée.
Une étude souligne l'influence de grands groupes sur des établissements prestigieux de l'enseignement supérieur en France. On y reviendra.
La politique agricole commune, c'est le sujet explosif au menu d'une réunion à Bruxelles aujourd'hui. Et puis nous nous demanderons comment se porte la musique contemporaine malgré la baisse des financements publics. La déclaration d'Emmanuel Macron est attendue ce soir à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies. La France va reconnaître l'État de Palestine comme une dizaine d'autres pays. Un grand jour pour la paix, salue le chef de la diplomatie Jean-Noël Barrot. Un pas franchi par la France parce que l'autorité palestinienne lui a donné en juin dernier des garanties. Dans une lettre du président de l'autorité, Mahmoud Abbas, Thibault Lefèvre, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous avez rencontré la ministre des Affaires étrangères de l'autorité palestinienne et elle a ajouté quelques conditions qui interrogent Thibault.
Oui, notamment pour l'organisation d'élections législatives et présidentielles dans l'année. Promesse forte et décisive de Mahmoud Abbas dans sa lettre à Emmanuel Macron en juin dernier, sachant que jamais depuis son arrivée au pouvoir il y a 20 ans, le président de l'autorité palestinienne n'a remis en jeu son mandat. Pour Warsen Arab et Kian Shaim, les Palestiniens seront appelés aux urnes dans l'année, tout simplement si les conditions d'organisation d'un scrutin sont réunies.
Comment voulez-vous que l'on organise des élections si ce génocide et cette guerre continuent? Comment la population de Gaza peut-elle voter? Pour qu'un scrutin se tienne, il faut que la guerre s'arrête. L'autre condition, c'est que les habitants palestiniens de Jérusalem participent au processus électoral. La communauté internationale doit convaincre Israël qu'empêcher les habitants de Jérusalem-Est de voter est une violation du droit international, car Jérusalem-Est fait partie intégralement des territoires occupés.
Vous l'avez entendu, ce n'est pas gagné, et notamment sur la question cruciale du vote des Palestiniens de Jérusalem occupés et annexés, qui subissent donc les décisions du gouvernement israélien.
Autre question cruciale, Thibault, le rôle du Hamas à l'avenir. Mahmoud Abbas a promis que l'organisation islamiste devait déposer les armes et ne dirigera plus Gaza. Mais sa ministre n'exclut pas un retour aux affaires.
Là encore, Warsen Arab et Kian Shaim posent tellement de conditions que l'hypothèse est improbable, mais cependant pas impossible.
Si le Hamas s'engage en faveur d'un processus démocratique, qu'il accepte de vivre en paix et en sécurité avec Israël, qu'il reconnaisse la souveraineté d'Israël sur 78% du territoire de la Palestine historique, si toutes ces conditions sont remplies, quel est le problème? Le Hamas doit devenir un parti politique.
Une idée que rejettent évidemment les Israéliens et qui effraie les chancelleries, car faut-il le rappeler, le Hamas a revendiqué les massacres du 7 octobre.
Le 7 octobre a été violent, mais la violence du 7 octobre doit être analysée par rapport au contexte dans lequel nous vivons depuis 70 ans. Et la réponse des Israéliens est largement au-delà de ce à quoi l'on pouvait s'attendre en représailles.
Une dernière information, la ministre des Affaires étrangères palestinienne se dit ouverte à des négociations avec l'État hébreu sur les territoires occupés. Plus d'un demi-million de colons israéliens vivent illégalement en Cisjordanie, à l'intérieur donc des frontières d'un État palestinien que la France s'apprête à reconnaître.
Les précisions de Thibault Lefèvre quant à Emmanuel Macron dans un entretien diffusé hier aux États-Unis, il pose comme condition à l'ouverture d'une ambassade en Palestine la libération des otages encore retenus à Gaza. Que pensent les Palestiniens de cette reconnaissance française? Amira Swilem s'est rendue à Rabat, petite commune de 5000 habitants près de Jenin dans le nord de la Cisjordanie occupée.
Depuis 3 mois, Rabat, le chant du coq est perturbé par un bruit bien connu des Palestiniens. Au loin, des bulldozers israéliens s'activent. Juché sur une colline, Rassen Bazour, le maire du village de Rabat, balaye la zone des yeux.
Les habitants n'ont plus le droit d'aller sur leur terre. Ils ne peuvent pas non plus faire paître leurs bêtes pour ceux qui en ont. Au début, ils vont construire une base militaire, mais ensuite, de nouvelles colonies seront sans doute érigées ici.
Plus de 13 hectares ont été saisis, précise le maire. Pour lui et ses administrés, la course contre la montre a déjà commencé. De retour à la mairie, l'édile retrouve un de ses conseillers municipaux. Ensemble, ils feuillettent le dernier document envoyé par les autorités israéliennes. Elles annoncent de nouvelles saisies de terres dans la région.
J'espère que la reconnaissance de l'État de Palestine va les pousser à mettre fin à ces opérations. C'est une bonne chose, cette reconnaissance. C'est un pas dans le bon sens, mais il va falloir faire bien plus.
Si c'est juste une reconnaissance de papier, ça ne changera rien à notre quotidien. Il y a des résolutions de l'ONU depuis des décennies maintenant. Aucune application n'a suivi. En tant que Palestiniens, nous avons perdu confiance dans la plupart des pays du monde.
Habitués aux désillusions à répétition, les Palestiniens saluent de façon prudente l'initiative française de reconnaissance de l'État de Palestine.
Reconnaître la Palestine, c'est nécessaire, mais insuffisant, estiment l'EPS, les écologistes et le Parti communiste français. Ils participaient à une manifestation hier à Paris à l'appel de plusieurs organisations syndicales et de partis de gauche. Entre 2 et 3 000 personnes se sont rassemblées dénonçant un génocide à Gaza. La guerre entre Israël et le Hamas dure depuis presque 2 ans. Écoutez Fabien Roussel pour le PCF.
C'est important aujourd'hui aussi qu'on manifeste parce que la reconnaissance de l'État de Palestine ne suffira pas à faire céder le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Il va falloir faire plus pour que la France, en plus de cette reconnaissance, multiplie les actions diplomatiques, mette sur la table les sanctions économiques contre l'État d'Israël, tant qu'il n'y aura pas l'arrêt des massacres, une aide humanitaire qui puisse arriver à Gaza, la libération des otages, mais aussi la libération de prisonniers politiques tels que Marwan Barghouti. Nous sommes attachés à tout cela, nous sommes attachés à une solution politique pour deux États qui puissent vivre côte à côte en sécurité. Et c'est le combat que nous menons depuis des années, mais c'est aujourd'hui le combat à l'ordre du jour de l'actualité internationale.
Fabien Roussel au micro de Mathilde Cariou. Olivier Faure lui demande à Emmanuel Macron d'autoriser les drapeaux palestiniens sur les mairies qui le souhaitent aujourd'hui. Cette initiative du premier secrétaire du PS divise. Le ministre de l'Intérieur, démissionnaire et patron de LR Bruno Retailleau a donné consigne au préfet de faire respecter, je cite, un principe de neutralité du service public en saisissant la justice administrative. Bruno Retailleau a annoncé hier soir sur le réseau X les résultats de la législative partielle à Paris dans la deuxième circonscription. Et il se réjouit que le candidat LR, ancien chef de gouvernement Michel Barnier, arrive en tête avec plus de 45% des voix au premier tour. Notons l'abstention très forte d'environ 75%. Michel Barnier affrontera dimanche prochain au second tour la socialiste Frédérique Bredin. De grandes écoles et universités sont sous l'emprise de multinationales. Dénonce deux rapports publiés récemment. L'un de l'Observatoire des multinationales est centré sur Polytechnique. L'autre s'intéresse plus largement à l'enseignement supérieur. Rapport alarmant que l'on doit au collectif EYES, un groupe d'étudiants qui a collecté des données sur l'influence des principales entreprises privées de notre pays sur 30 établissements parmi les plus prestigieux, Camille Magnard.
Dans son étude, le collectif cartographie pas moins de 6000 liens d'influence entre écoles et entreprises, avec parmi les plus omniprésentes des groupes comme Thales, Total Energy, EDF ou le cabinet de conseil McKinsey. Romain Poyet, ancien élève de Polytechnique, est l'un des auteurs du rapport.
Ça va être les influences sur la recherche avec les chaires d'entreprise, la présence au conseil d'administration, divers sponsoring en lien avec les associations étudiantes. Et sinon, un gros élément de présence des entreprises, c'est quand même le forum des métiers. Sur lequel donc il y a 150 structures qui sont invitées, la plupart des grosses entreprises, énormément de cabinets de conseil américains, boîtes de finances, de l'industrie. Ça nous donne une vision de ce qu'est le monde économique qui est assez clair et assez marqué ce jour-là.
Ces partenariats en tout genre, ils rendent les entreprises incontournables auprès des élèves qu'elles courtisent. Leur visibilité, note le rapport, est proportionnelle à l'argent que déboursent les sociétés plutôt qu'à des critères éthiques ou relevant de l'intérêt général.
On présente à côté innovation, start-up, tech, IA, comme étant une façon de répondre à l'intérêt général, Total Energy, ça c'est le point de vue de l'école, c'est une entreprise dont on a besoin pour résoudre les défis sociétaux.
Le collectif étudiant EYES, on le comprend, s'inscrit contre cette vision qui fait obstacle, selon lui, à une vraie prise en compte des enjeux climatiques en particulier. Alors pour défaire cette emprise, Romain Poyet et les siens veulent que soient publiées les sommes d'argent versées par les entreprises privées aux grandes écoles.
Rien que d'avoir la transparence sur les financements, les contreparties avec ces acteurs-là, pour moi c'est la première brique. Deuxième brique, c'est une prise de décision démocratique où il y a plus de personnes qui ont leur mot à dire et une orientation affichée avec la prise en compte des limites planétaires avec des objectifs sociaux.
À titre d'exemple, le rapport, cette fois de l'Observatoire des multinationales, établit que les financements privés représentent 15% des ressources totales de l'école polytechnique.
Deux procès médiatiques commencent aujourd'hui. Celui du maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, et de trois anciens proches devant le tribunal correctionnel de Lyon, soupçonnés d'avoir fait chanter Gilles Artigue, alors premier adjoint et rival politique du maire, avec une vidéo intime. Et puis celui aux assises de Cédric Jubilard, accusé du meurtre de son épouse Delphine, disparue en décembre 2020 dans le Tarn. Procès que devraient suivre sur place 300 journalistes.
8h10 sur France Culture, c'est la suite du journal de Margot Delpierre. Sujet majeur et sensible au sein de l'Union européenne, les ministres de l'Agriculture des 27 se réunissent aujourd'hui à Bruxelles pour examiner la réforme de la PAC, la politique agricole commune.
Oui, la Commission européenne a détaillé son projet mi-juillet lors de la présentation de son futur budget 2028-2034, en s'efforçant d'apporter des garanties sur le soutien financier qu'elle compte fournir aux agriculteurs, sans pour autant éteindre toutes les inquiétudes. Fabien Cazot.
C'est un engagement qu'a pris la Commission européenne en présentant son projet de futur budget cet été. Promis, elle continuera via la nouvelle PAC à soutenir le niveau de vie des agriculteurs. 300 milliards d'euros y seront consacrés sur 7 ans, c'est 10% de plus que dans l'ancien budget. En revanche, toute la partie concernant le soutien aux régions rurales, les financements de projets pour attirer de jeunes agriculteurs ou encore le soutien à l'innovation, tout cela sera désormais piloté par les États membres qui puiseront dans l'enveloppe européenne plus globale, consacrée à l'ensemble des aides régionales. Ce nouveau schéma se veut plus clair, mais il réduit la PAC au seul soutien du revenu des agriculteurs. Les versements seront donc revus à la baisse, 51 milliards pour la France contre 65 actuellement. Des chiffres qui attisent la colère du monde paysan en France et ailleurs en Europe, parmi d'autres sujets qui fâchent, comme l'accord commercial avec le Mercosur ou encore les droits de douane imposés par les États-Unis.
Icône de l'industrie allemande, Porsche doit quitter ce matin le DAX, l'indice phare de la bourse de Francfort. Il regroupe les 40 entreprises les plus performantes du pays. Le constat est simple, le groupe vend peu de véhicules et ses bénéfices se sont effondrés. Difficulté révélatrice de la crise du secteur automobile. La correspondance en Allemagne de Sébastien Baer.
Il y a 3 ans, Porsche avait fait une entrée en bourse prometteuse. L'action avait été introduite à 82,50 € avant de bondir à 120 € en l'espace de quelques mois, malgré le contexte international tendu, l'inflation et la guerre en Ukraine. Volkswagen, la maison mère, avait présenté cette entrée en bourse comme le début d'un nouveau chapitre pour la marque. Mais 3 années plus tard, la rentabilité du constructeur a fortement baissé et le titre de Porsche n'est plus coté qu'à 45 €. Comme les autres groupes automobiles, le fabricant de voitures de sport traverse une période de turbulence. Ses ventes s'effondrent en Chine où la demande de modèles de luxe ralentit et où les clients préfèrent se tourner vers les marques nationales. Porsche doit aussi faire face à une transition vers l'électrique plus coûteuse que prévu. À ces difficultés s'ajoutent les droits de douane américains qui viennent encore rogner les bénéfices car le constructeur ne possède aucune usine aux États-Unis et importe chacune de ses voitures depuis l'Union européenne. Porsche quitte donc l'indice de référence de l'économie allemande pour rejoindre le MDAX à l'échelon inférieur. Ce déclassement, s'il n'a pas d'incidence directe, risque de fragiliser l'image de la marque, symbole de puissance et de performance. Les experts boursiers s'attendent à une nouvelle perte de valeur de l'action.
Le centre Pompidou à Paris ferme ce soir et pour 5 ans, le temps de grands travaux de rénovation. Les collections permanentes n'étaient déjà plus accessibles. C'est désormais le dernier jour pour aller voir l'exposition temporaire consacrée à l'allemand Wolfgang Tillmans. Alors qu'a commencé le festival Musica à Strasbourg qui met en valeur la création musicale, comment se porte aujourd'hui la musique contemporaine? Quelles conséquences avec ce contexte budgétaire contraint? Louis-Valentin Lopez à Strasbourg.
Quartier de Haute-Pierre, à Strasbourg. C'est là que s'est installé l'un des ensembles les plus anciens de la ville.
Bonjour, alors bienvenue chez nous, aux percussions de Strasbourg.
Sa déléguée générale, Maud Repiquet.
C'est un ensemble pionnier qui existe depuis plus de 60 ans et depuis, on se doit de faire vivre notre répertoire qui est doté de plus de 400 œuvres maintenant.
Vendredi, les percussions se produiront lors du festival Musica, partenaire bienvenu à l'heure où les diffuseurs sont de plus en plus frileux.
Très concrètement, les opportunités qu'on a de vendre des concerts sont de plus en plus réduites. Clairement, on voit que les prises de risque des salles pluridisciplinaires, notamment, sont moindres parce qu'eux-mêmes doivent remplir leurs salles. Donc, Les programmateurs ont tendance plutôt à choisir des esthétiques plus classiques, plus musique actuelle que musique contemporaine.
À cela s'ajoute la baisse des financements. Jean-Philippe Wurst, fondateur de l'ensemble strasbourgeois Linéa.
On voit un désengagement assez général, en fait, aussi bien de l'État que des collectivités, qui nous amène à nous poser pas mal de questions sur l'avenir du secteur et nous invite en particulier à nous renouveler dans les formes de financement possibles.
Mais compliqué de passer au financement privé.
Il n'y a pas vraiment les outils qui permettent de le faire. Donc ce qui nous attend, c'est un peu le désert culturel à l'italienne, si je puis dire.
Une fragilité qui se constate partout en France. Estelle Laury dirige la Maison de la Musique Contemporaine. Elle accompagne les professionnels qui sollicitent son aide.
On a vu par rapport à 2024 une augmentation de près de 30% de nos demandes sur l'ensemble des dispositifs. Des dispositifs qui ont littéralement explosé, comme l'aide aux projets musicaux pluridisciplinaires.
Une précarité économique d'autant plus frustrante, regrettent les musiciens qu'ils décrivent tous un secteur extrêmement dynamique.
Le département des Côtes-d'Armor reste en vigilance orange. Pluie, inondation, annonce Météo France. Le temps est encore perturbé. 13 degrés seulement cet après-midi à Strasbourg, 16 à Paris, jusqu'à 25 à Ajaccio.